accueillons maintenant Monsieur Pascal Haché, psychologue, qui va nous parler de la relation peut-être difficile entre les parents, l'ado et la drogue. Merci, monsieur.
Merci pour cette présentation. Merci également à Chantal Calatayude et à toute son équipe pour l'organisation de ces journées et pour leur invitation. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis psychologue depuis une douzaine d'années dans un centre d'aide aux usagers de drogue. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion de rencontrer, à côté de personnes qui consomment des produits qui font souvent l'objet d'une toxicomanie, à savoir de l'héroïne ou d'autres opiacés, eh bien, au fil des années, on peut dire que nos files actives s'enrichissent, entre guillemets, de personnes qui consomment du cannabis. Alors, c'est un peu une nouveauté pour nous, cliniciens, et cette nouveauté m'a amené à pousser une réflexion. J'ai découvert à cette occasion-là qu'il existait quasiment rien en matière de littérature en langue francophone sur les usages de cannabis, et surtout d'un point de vue psychologique ou psychanalytique. C'est donc un petit peu un travail de défrichage auquel je me suis livré, qui a donné lieu à ce petit livre chez Fleurus, ces ados qui fument des joints. Alors, tout d'abord, avant d'aborder ma pratique auprès des adolescents qui consomment du cannabis, ainsi qu'auprès de leurs parents, et puis ce qu'on peut en penser, ce que peuvent recouvrir ces différents usages de produits, parce qu'ils sont multiples, il n'y a pas un profil type, on pourrait dire. Je suis tenté de faire un mea culpa concernant l'attitude des professionnels venant en aide aux usagers de drogue par rapport aux usages de cannabis. À savoir que quand j'ai commencé dans le secteur, il y a une douzaine d'années, on me disait, c'est simple, on me disait, parmi les gens qui viennent dans nos centres, il y a d'un côté les consommateurs d'héroïne ou d'autres opiacés. Ces personnes sont toxicomanes, c'est-à-dire ont une dépendance psychologique au produit. Par ailleurs, ils présentent une dépendance physique qui, là, appelle un traitement extérieur à la structure de type médical, ce qu'on appelle une cure de sevrage. Mais en gros, on nous disait, les usagers d'héroïne sont dans un rapport de dépendance, de toxicomanie. Ces personnes souffrent, sont malades. Donc ces personnes justifient pleinement leur venue dans nos centres. Et ce qu'on entendait alors, et je disais, et ceux qui fument du cannabis ? Eh bien, la réponse qui était faite aux nouveaux embauchés, aux novices, c'était, en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. De temps en temps, on me disait, tu verras arriver, débouler des parents un peu anxieux, angoissés, qui ont des... Qui déboule en disant « Eh bien voilà, on a trouvé un morceau de résine de cannabis dans la chambre de notre fille ou de notre fils, plus souvent. Dites-moi, est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est toxicomane ?» Et là, on me disait « La conduite à tenir, c'est « Mais non, rassurez-vous, monsieur, rassurez-vous, madame, c'est simplement dû à la crise d'adolescence. Ça fait partie des expérimentations. On côtoie le risque, on a un peu le goût du risque, etc. » La consommation de cannabis en fait partie, mais ça ne donne jamais lieu à une toxicomanie. Les gens qui fument du cannabis le font uniquement pour essayer ou bien pour s'amuser. Donc voilà le type de représentation avec lesquelles j'ai longtemps fonctionné, à l'instar de beaucoup de collègues. Et voilà donc le type de réponse standardisée que nous étions un petit peu invités par les collègues plus aguerris à fournir aux parents d'adolescents consommateurs de cannabis. Et je dois dire que ce type de réponse n'épargnait pas les grands spécialistes parisiens de la question qui, pour certains, à côté de leur travail en institution, recevaient également des personnes en cabinet. Alors, cette représentation, elle ne nous a pas trop dérangé, nous professionnels, tant que la venue d'usagers de cannabis dans nos structures demeurait quelque chose de vraiment ponctuel, si vous voulez. C'était pas assez fréquent pour nous pousser à nous remettre en question. Et je dirais que la nature même de la réponse que l'on donnait, réponse un peu banalisante, faisait que ça nous dissuadait nous-mêmes d'avoir envie de brancher nos antennes un peu à fond et d'y voir un peu plus clair. Il a fallu, en fait, pour que nous changions d'idée, il a fallu plusieurs choses. Il a fallu le développement spectaculaire des consommations de cannabis chez les adolescents, d'ailleurs pas seulement chez les ados, hein, j'écris ces ados qui fument des joints, je pense qu'il y aurait tout aussi matière à faire à propos de ces adultes qui fument des joints, mais ils sont encore relativement discrets dans nos institutions, peu fréquents. Donc ce qui s'est passé, c'est que les consommations de cannabis explosent véritablement, quantitativement, depuis quelques années, chez les jeunes. Hein. Je lisais l'autre jour dans Libération, qui se faisait l'écho d'un rapport épidémiologique, comme quoi, à l'âge de 17 ans, plus d'un adolescent sur deux a déjà fait l'expérience de tirer sur un joint. Enfin, pour dire les choses simplement, on a vraiment l'impression que, pour la génération d'adolescents actuels, ça fait partie des expériences à faire. Un peu comme j'ai envie de dire, il y a une vingtaine d'années, dans ma génération, on se devait, entre guillemets, de faire l'expérience de prendre une bonne cuite. Généralement, c'était à la vodka orange pour fêter le BEPC ou pour fêter le bac. Or là, maintenant, autant les alcools variés sont... on pourrait dire le produit le plus consommé psychoactivement, la substance psychoactive la plus consommée dans un contexte de fête, enfin pour modifier les états de conscience, dans un sens d'ébriété, d'ivresse, eh bien autant pour la génération qui va suivre la nôtre, le cannabis semble prendre cette place. Donc ça, on ne peut pas l'occulter. Et on ne peut pas, ça rend tous les messages de prévention de type diabolisant, etc., totalement inefficaces. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'ils sont faux, ces messages. Je veux dire que l'idéologie du cannabis poison, du cannabis qui rendrait fou, du cannabis qui détruirait les cellules nerveuses, eh bien, cette idéologie, c'est un mythe qui a vécu. Chez les personnes les plus âgées, enfin les générations les plus âgées, il demeure un petit peu tenace, faute de pouvoir rencontrer peut-être des personnes qui consomment des produits et donc de faire évoluer leur représentation. Mais de plus en plus de personnes jeunes, mais aussi de parents, et ça nous facilite la tâche, eh bien, ont des représentations qui sont moins catastrophiques qu'auparavant concernant les effets lui-même du cannabis. Alors, le produit, ses effets, ça c'est une chose, et quels que soient les jeunes et les parents que nous rencontrons, eh bien on est amené à en discuter avec eux, les informer des risques liés au produit, quelle que soit la quantité consommée, les circonstances, on pourrait dire quel que soit le rapport psychologique au produit. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est non pas d'appliquer une lecture, un décodage un peu standard, à l'instar de ce que faisaient nos collègues auparavant, mais de faire du cas par cas. L'approche d'un adolescent qui fume des pétards et celle de ses parents, c'est vraiment du cas par cas. C'est pas parce que le comportement est en apparence le même que les personnalités, les histoires de vie, etc., elles sont les mêmes. Et c'est d'ailleurs tout à fait passionnant, en tant que clinicien, de voir que par-delà des consommations, je veux dire, où le comportement est identique, relativement standardisable, eh bien de voir qu'il y a une telle diversité de motivations psychologiques sous-jacentes et une telle diversité aussi de dynamiques familiales. Parce que ça, on va le voir, certaines consommations de cannabis plongent des racines rien moins que familiales. Non pas au sens où des adolescents fumeraient des pétards pour imiter leurs parents, ça existe, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de très fréquent, mais au sens où quelquefois, eh bien, l'utilisation de cannabis, surtout de façon régulière chez un adolescent, peut être une façon de questionner une histoire familiale quelque peu lacunaire au niveau de ce que les parents ont pu en dire à l'enfant, et notamment, c'est peut-être une façon de questionner leurs propres parents sur leur propre adolescence. Et là, on a affaire à des choses tout à fait passionnantes dans les entretiens, où on découvre que quelquefois, les adolescents fument du cannabis pour aménager, entre guillemets, une bulle, on pourrait dire, qui leur serait propre, ceci sur la base d'un déficit de communication avec les parents, qui lui-même, dans certains cas, peut être dû que les parents sont extrêmement réticents à aborder leur propre adolescence. Donc, faute de pouvoir poser des repères surmonter leur crise adolescente avec des mots, ce que l'on observe alors, c'est qu'un certain nombre de jeunes vont se tourner vers des comportements, et parmi lesquels des consommations de produits tels le cannabis. Pour dire les choses autrement, si vous voulez, c'est comme si certains adolescents cherchaient dans les effets du cannabis des réponses sensorielles, entre guillemets, qui visent en quelque sorte à pallier l'absence ou l'insuffisance de réponses verbales qu'ils pourraient adresser à leurs parents, qu'ils adressent ou qu'ils attendent de leurs parents.